Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les deux semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autre, qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans la première partie de leur parcours. D'où viennent-ils? Où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière? Ensuite, de ce qu'ils font actuellement. Qu'est-ce que cela peut nous apporter en pratique? Quel est leur sujet de recherche actuel? En quoi cela peut-il améliorer nos compétences? Et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous.
Salut Pierre.
Salut Julien.
Merci à vous, toi, d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast.
Avec plaisir.
Je voulais déjà que tu présentes un peu ton parcours, d'où tu viens, etc. Et voilà, que tu nous en dises un peu plus sur ce que tu fais actuellement.
Alors, au niveau parcours, moi, j'ai une formation STAPS. Donc, j'ai fait une licence STAPS entraînement sportif sur Nice, à l'UFR STAPS de Nice, dans les années 2000, entre 2000 et 2003-2004. Et ensuite, je suis monté faire un master en lien avec l'ingénierie et le développement de produits sportifs. Donc, dans l'idée de travailler derrière en R&D dans une entreprise d'équipement de sport. Et c'est là où j'ai découvert. Alors, je suis monté faire ce master à Chambéry, à l'université où je travaille actuellement. Et bon, pour la petite histoire, c'est le master que je dirige actuellement à l'université Savoie-Mont-Blanc. Donc j'y suis passé en master 1 et master 2, puis j'ai découvert la recherche à ce moment-là sur des stages de recherche en sciences du sport, et puis du coup je me suis piqué au jeu de ce domaine-là, et donc j'ai continué dans le domaine de la recherche doctorat que j'ai fait à Saint-Étienne au laboratoire de physiologie de l'exercice. D'accord. À Saint-Étienne sous la direction de Alain Belli et de Jean-Benoît Morin. Et donc c'est là où on a commencé à bien bosser ensemble sur des thématiques un peu sur les propriétés musculaires. Et ensuite, à la suite de mon doctorat, j'ai enchaîné deux postes de ce qu'on appelle les postes d'ATER, d'attachés de temporaire d'enseignement et de recherche. En gros, c'est des postes d'anciens chercheurs contractuels sur des contrats d'un ou deux ans. Donc c'était en attente d'avoir un poste universitaire que moi j'ai fait une campagne qui a pas porté ses fruits. Et ensuite donc j'ai eu une proposition à Salomon pour bosser en R&D, donc retrouver un peu mes projets de départ qui m'intéressaient toujours. Donc j'ai fait
de base, ouais.
Voilà, du coup c'est ce qui m'a fait déménager sur Annecy. Belle année à Salomon, et puis donc j'ai continué à candidater sur des postes académiques, et puis c'est là où j'ai eu mon poste à Chambéry. Et donc maintenant je suis en chercheur justement à l'université Savoie-Mont-Blanc, avec une partie de mes enseignements en STAPS, et puis la partie de mes activités de recherche au LIBM, c'est un laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité, en gros en sciences du sport côté plutôt sciences de la vie.
Et ton année chez Salomon, c'était impossible pour toi, par exemple, de faire un mi-temps en R&D chez Salomon ou une autre boîte, et après, soit un autre mi-temps enseignement, par exemple, à l'IBM ou quelque chose comme ça, c'était impossible.
Après, en fait, déjà, les mi-temps comme ça, c'est pas évident, l'organisation, parce que c'est quand même deux mondes complètement différents, même si c'est des mondes qui bossent ensemble. Il y a quand même d'un côté une entreprise privée, puis un laboratoire, une université. Après, c'est d'avoir des postes. Ça existe peu, les postes à mi-temps à l'université, où on peut faire un mi-temps. D'accord. En recherche et que recherche, parce que souvent dans nos postes à l'université, il y a quand même une grosse part d'enseignement. Donc en fait, ce genre de poste, c'est pas très fréquent. À ce moment-là, en tout cas, moi, la R&D, ça m'a toujours intéressé, ça m'intéresse toujours. Donc c'était pas non plus uniquement par défaut que j'ai fait ça, au contraire.
Ouais.
J'ai passé une super année chez Salomon. Je me suis régalé dans ce que j'ai fait à Salomon parce que c'était en plus c'était du développement de produits, mais c'était surtout de la recherche en amont du produit. Donc j'étais pas très éloigné en termes de domaine de domaine de recherche.
D'accord. Ouais, donc c'est ce que tu voulais faire en te lançant dans ce master aussi à la base, du coup.
C'est ça, voilà. C'était exactement le métier dont je rêvais quand j'ai attaqué un peu ces études. Puis après, j'ai été détourné par la recherche, mais ouais, c'était exactement ça dans mes projets professionnels de jeunesse. Donc c'était une super expérience, ouais.
Et est-ce que des fois tu as envie justement de retravailler là-dedans dans une grande entreprise ou ce que tu fais là actuellement, ça te plaît, tu as envie de persévérer là-dedans?
Ça a été les grosses questions que je me suis posées au moment justement où j'ai eu mon poste académique à Chambéry et où à Salomon, ben, on me proposait de continuer l'aventure aussi. Donc, je me suis posé ces questions. Bon, c'est vrai que bon, le domaine de la recherche et puis en été, j'ai continué à travailler pendant cette année-là sur tous les projets qu'on avait mis en place avec notamment. JB Morin, donc on continuait, on était assez actifs et on était sur un domaine assez porteur, donc c'était assez passionnant. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a réorienté sur le côté de la recherche. Je pense que j'aurais été dans une période de creux en termes de recherche, peut-être que je serais resté dans le domaine industriel parce que c'est un domaine qui m'attirait bien. Après, bon, j'ai la chance en travaillant à Chambéry et en pilotant justement ce master. En tout cas, j'ai travaillé dans le cadre de ce master dès mon arrivée à Chambéry, à l'université. Donc c'est un master qui est en lien avec les entreprises. Donc on a quand même continué, j'ai quand même continué à travailler avec Salomon, mais aussi d'autres entreprises. Donc c'est aussi, ça m'a pas fait complètement couper de ce milieu un peu appliqué équipement sportif en basculant dans le domaine académique.
Et du coup, vous avez des demandes spécifiques des entreprises et vous envoyez des stagiaires dans ces entreprises. Comment ça se passe?
Oui, c'est ça. En fait, bon, la collaboration entre l'université et ces entreprises. Alors, la collaboration, elle peut se faire sur la base de stagiaires. Nous, nos promos de master, elles sont d'une soixantaine d'étudiants en master 1 et en master 2. Donc, en fait, on a chaque année, en gros, 120 étudiants qui partent en stage dans des entreprises. De R&D, alors soit dans le domaine du sport, soit dans le domaine plutôt de la santé. Donc, ouais. Donc on est en lien continu avec eux. Alors après, quand ils prennent des stagiaires en stage, ils prennent pas l'université en stage. Donc c'est pas des projets de collaboration, mais dans certains cas de figure, ça débouche sur des collaborations. Ou alors il y a des entreprises qui sollicitent directement le laboratoire sur des projets précis, que ça soit, si tu veux, que ça soit en amont du produit. Pour mieux comprendre la motricité et le mouvement humain afin de mieux développer. C'est un peu les collaborations qu'on a continué à avoir avec Salomon ces dernières années et d'autres entreprises. Mais la plupart du temps, c'est les premiers contacts qu'on a avec les entreprises, c'est plus pour tester, évaluer, valider des concepts avec
d'accord, qui existent déjà.
Voilà, avec des mesures pour voir. Enfin voilà, soit des objectifs de marketing. Marketing, c'est dans le sens honorifique du terme, hein, dans le sens pour prouver scientifiquement que ce qui est revendiqué d'un point de vue marketing,
ça tient la route.
Tient la route, ouais. Mais aussi des fois, ça leur permet de mieux orienter leur développement futur. Donc voilà, souvent les premières prises de contact, c'est plutôt sur l'évaluation du testing, de la validation de concepts et de produits. Et des fois, ben voilà, au bout d'un certain temps qu'on travaille avec ces entreprises, ça va plutôt sur le côté amont du produit, où leur but c'est de mieux comprendre pour mieux développer.
D'accord. Alors c'est énorme. Et du coup, quand c'est les entreprises qui vous contactent, quand le concept existe déjà, tout ça, là, ça concerne, on va dire, directement toi et tes collègues, ou ça concerne aussi les étudiants en master?
Après, ça dépend des niveaux de collaboration qui sont souhaités par l'entreprise. Alors bien sûr, si ça sollicite que des chercheurs du laboratoire, les coûts associés à la collaboration seront bien plus élevés pour l'entreprise que si c'est des étudiants en master. Donc souvent, la solution avec des étudiants stagiaires, c'est un bon compromis pour des premiers contacts et des premières collaborations qu'on peut avoir avec ces entreprises. Après, sur certains concepts poussés, etc., il faut qu'il y ait quand même l'intervention d'un senior dans ces aspects par rapport à l'expertise qu'il peut représenter. Alors, ça peut être moi, ça m'est arrivé, mais aussi d'autres collègues qui sont dans d'autres domaines d'expertise qui sont intéressantes pour les entreprises.
D'accord. Et les entreprises qui vous contactent, c'est des entreprises, on va dire, de région Rhône-Alpes-Auvergne, ou c'est français, c'est international?
On a un peu tout eu. Alors, bien évidemment, la proximité géographique, il fait beaucoup. Et en plus, on est dans une région très dynamique à ce
Oui,
niveau-là.
c'est
Donc,
clair.
souvent, c'est quand même des régions, des entreprises régionales. Après, on a déjà travaillé avec des entreprises internationales et plus éloignées qui viennent chercher des expertises très particulières au laboratoire.
D'accord, c'est hyper intéressant. Pour passer aussi sur une de tes spécialités, donc avec Jean-Benoît Morin, tu as beaucoup travaillé sur le profil force-vitesse. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est?
Oui, c'est vrai que c'est bon. C'est un peu le cœur de nos activités de recherche aujourd'hui et puis depuis, on va dire, une dizaine d'années. Alors, on a pas inventé le profil force-vitesse, hein. Les relations force-vitesse, elles existaient depuis des dizaines d'années. En tout cas, dans les années 80, c'est là où elles ont vraiment fait leur apparition. Je parle sur des mouvements un peu fonctionnels. C'est dans les années 30 où justement la mécanique musculaire a été étudiée au tout départ, les années 1920-1930. Mais donc les relations force-vitesse, et maintenant ce qu'on appelle profil force-vitesse parce qu'on les utilise pour caractériser un peu les profils d'athlètes. Donc nous on l'a pas inventé. Par contre, on a pas mal travaillé dessus et on va dire qu'on a contribué à démocratiser ces approches pour qu'elles soient accessibles sur le terrain et qu'elles puissent être plus facilement utilisé. Et c'est ce qui fait que voilà, on a cette étiquette un peu sur les profils force vitesse. Mais c'est vrai qu'on aime bien aussi préciser qu'on n'est pas à l'origine de la relation force vitesse musculaire, qui est quelque chose qui a été bien exploré avant les années 2010. Donc oui, donc en fait, pour en dire un peu plus, ces relations force vitesse, en gros, je le présenterai comme un outil pour évaluer les capacités musculaires ou la production de force des individus. Donc après, il
D'accord.
existe différentes méthodes, différents mouvements, différentes utilisations pour de cette évaluation ou cette caractérisation des capacités musculaires. Et donc nous voilà, l'objectif de nos travaux ces 10 dernières années, ça a été déjà, on a utilisé cette caractérisation des productions de force à un niveau assez macroscopique, c'est-à-dire qu'on est resté sur des mouvements globaux, des mouvements d'extension de membres inférieurs, de membres supérieurs. On n'est pas allé sur l'évaluation au niveau du muscle ou de la fibre, comme certaines
Ouais.
équipes enfin, font actuellement enfin, et puis ont déjà fait. Donc on est sur des mouvements assez proches de la pratique et les questions qui nous ont intéressés, en gros, c'est être capable de mieux évaluer ces relations force-vitesse pour mieux profiler les athlètes, donc de mieux les évaluer. Donc notamment cette partie évaluation, ça a été de valider, de proposer des méthodes utilisables sur le terrain, mais avec de la précision proche de précision de laboratoire. C'était un premier axe de travail qu'on a développé. Ensuite, c'est une fois qu'on a cette évaluation, c'est de savoir, d'avoir des outils ou des concepts qui nous aident à savoir vers quoi faire tendre ces profils pour améliorer la performance. Donc, c'est le lien entre ces capacités de production de force et la performance. Donc, et en utilisant voilà des informations et des concepts. Donc bon, il y a les profils optimaux, il y a eu aussi sur le sprint cette efficacité de propulsion, qui sont des outils, on va dire, assez simples pour pouvoir en gros interpréter ces profils. Et enfin, il y a tout le côté, j'allais dire enfin, mais il y a encore deux éléments. Il y a le côté un peu modification de ces profils par l'entraînement, ou alors modification de
D'accord.
ces profils par une déficience, une altération, par de la fatigue, et c'est-à-dire de mieux comprendre l'adaptation et la plasticité de ces profils force-vitesse, alors soit dans un sens d'entraînement ou de réentraînement, soit plutôt dans un sens comment ils sont altérés par la fatigue, par une blessure, par des dommages musculaires, etc.
C'est énorme. Et Justement, tu parlais de profil optimal. Le profil optimal de force-vitesse, il dépend du sport, il dépend du poste sur un sprint. Parce que par exemple, en foot, en rugby ou sur du 100 mètres, tu es régulièrement sur du sprint. Sauf que bah, tu as des directions peut-être qui vont changer en fonction du sport, etc. Mais le profil optimal, il dépend de tout ça.
Alors déjà, le profil optimal, il n'est pas optimal pour tout. Donc effectivement, il va dépendre de l'activité et des mouvements qu'on va chercher à optimiser. Alors ce qu'on appelait profil optimal sur des mouvements d'impulsion comme le saut, il n'est optimal uniquement pour des actions dans lesquelles le sportif va devoir s'accélérer lui-même, accélérer sa propre masse. Alors un saut, un départ en sprint, un
D'accord.
changement de direction. Voilà, dans ces actions-là, il va falloir, et ça correspond quand même à pas mal d'actions dans le domaine sportif, où il va falloir accélérer son corps. Et dans ce cas-là, il existe effectivement un bon rapport entre force et vitesse qui permet de maximiser ce type de performance. Par contre, ce profil optimal, il ira peut-être pas pour un première ligne en mêlée, il ira pas pour un judoka, voilà. C'est pas un profil universel. Donc il respecte les spécificités de certains types de mouvements. Donc oui, il dépend des mouvements. Après, sur le sprint, ce profil optimal, on l'a pas encore publié. Là, on y travaille actuellement, hein. C'est des choses que je fais justement en juillet 2020. J'utilise un peu ce temps une fois que l'année académique est finie pour pouvoir travailler sur ce genre de projet. Et voilà, donc là on est dessus, on est en cours de publication de ce profil optimal qui là aussi donne pour certains types d'accélération. Quel est le bon rapport à avoir entre ces capacités de production de force à vitesse élevée ou à vitesse lente pour optimiser un 10 mètres, un 20 mètres, un 30 mètres, un
Wow.
50 mètres?
L'objectif, c'est aussi de le transmettre dans la pratique et pour les coachs, les prépas physiques, tout ça. Et l'objectif, c'est justement que ce soit facilement transmissible et que, par exemple, pour un sportif, tu sais qu'à son poste, il a, on va dire, dès qu'il doit sprinter à 90%, on sait que ce sera entre 5 et 10 mètres. C'est lui faire travailler sur ce profil optimal de 0 à 10 mètres.
C'est ça, par exemple, voilà, c'est une utilisation, en tout cas, c'est des applications possibles de ce profil optimal. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on fait la photographie de ses capacités de production de force en sprint avec le profil force vitesse en sprint. Et derrière, on sait quelle est la cible à atteindre
Ouais.
pour un type de performance. Mais effectivement, le profil optimal sera pas le même pour une accélération sur 5-10 mètres que sur une accélération de 20 ou 30 mètres. Alors après, effectivement, et puis après, là, nous, en fait, on donne des informations aux entraîneurs là-dessus ou aux préparateurs physiques. Après, c'est à eux de savoir, parce qu'effectivement, dans
Ouais.
la plupart des sports, il va falloir qu'ils soient bons sur 5 mètres, mais aussi sur 30 mètres. Mais après, cet élément-là, c'est au jugement du préparateur physique ou de l'entraîneur qui, en fonction de là où il veut emmener ses joueurs, prendra la décision de faire basculer le profil plutôt d'un côté ou plutôt.
Wow, c'est énorme. Et sur ce profil force-vitesse, il y a un lien aussi, vous avez fait le lien, il me semble, avec les blessures aux ischio-jambiers.
Oui, effectivement. Alors ça c'est un gros pan sur lequel on s'est un peu attaqué ces dernières années. Alors c'est des choses qui sont surtout pilotées par JB Morin et Pascal Edouard sur Saint-Étienne. Alors moi j'y contribue et puis on travaille beaucoup ensemble là-dessus. Ça, c'est plutôt dans le cadre par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur comment évoluent ces capacités de production de force sous l'influence d'une altération quelconque. Et là, c'est une blessure. Et on s'est aperçu en tout cas que ce profil était très sensible. Alors à la blessure, bien sûr, mais qu'au moment où le joueur, c'était des joueurs de foot, avait le feu vert du staff médical pour dire là, c'est bon, tous les feux sont ouverts pour retourner sur le terrain. Avec cette évaluation qui est très fonctionnelle, on avait encore un déficit au niveau de certains paramètres qui montraient que toutes les capacités n'étaient pas retrouvées. Et puis quelques temps après, 2 mois après, si on faisait une évaluation, on avait retrouvé toutes les capacités d'avant-blessure. Donc ça permettrait, voilà, en tout cas nous, ce qu'on en dit aujourd'hui de ça, c'est que c'est pas un outil magique. Par contre, ça pourrait être la dernière évaluation. Avant le retour sur le terrain, le dernier feu à allumer au vert pour être sûr que le sportif a retrouvé toutes ses capacités. Alors après là aussi c'est au choix du staff médical de dire est-ce qu'on attend d'avoir tous les feux au vert, est-ce qu'on prend le risque de reprendre un petit peu avant, etc. Ça limite nous, c'est pas notre boulot prendre cette décision. Nous, notre boulot, c'est de donner des informations sur on va dire l'état musculaire, mais d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue production de force du sportif.
D'accord, carrément. Et du coup, est-ce que aussi il y a des différences en fonction des, tu vois, est-ce que s'il y a plus, de plus en plus de récidives, par exemple pour un footballeur, un sprinter ou autre, est-ce que plus il y a de récidives au niveau d'une lésion des ischios jambiers et plus son profil bascule d'un côté ou de l'autre, ou ça dépend vraiment de la personne à la base et de son sport?
Pour l'instant, à chaque fois qu'il y a une blessure et qu'il y a une altération des ischio-jambiers, par une blessure notamment, le basculement du profil, il se fait dans le même sens. Il y a une déficience au niveau des productions de force à vitesse faible, donc force horizontale, donc le paramètre de force maximale sur le profil qui chute.
Ouais.
Donc, en tout cas, de tout ce qu'on a observé, c'est ça. Alors, ce qui est logique, hein, c'est normal qu'il ait moins de force une fois qu'il est altéré. Voilà. Par contre, le côté original, c'est que même quand les autres tests un peu plus analytiques montrent que la récupération est faite, et ben sur le mouvement de sprint pour produire de la force horizontale, ces extenseurs de hanches ne sont pas encore au meilleur de leur forme. Alors le truc effectivement, c'est que sur les blessures aux ischio-jambiers comme sur pas mal d'autres blessures, le premier facteur de blessure, c'est le fait de s'être déjà blessé. Donc derrière, cette phase de retour au sport est vachement importante. Et les indicateurs qu'on utilise dans la phase de retour au sport peuvent vite se transformer comme des facteurs prédictifs d'une surblessure, enfin, ou d'une deuxième blessure. Alors ça, c'est des choses qu'on est en train justement d'explorer actuellement sur en quoi ça pourrait être utilisé comme facteur de risque, avec beaucoup d'autres facteurs, hein, ça serait pas le seul facteur de risque, mais dans l'équation complète de la prédiction de la blessure, ça pourrait intervenir. Et voilà, il y a des choses qui se dessinent où là aussi on s'aperçoit que certains joueurs qui se blessent, ils présentaient avant de s'être blessés des signes un peu distinctifs au niveau de ce profil. Après, tout n'est pas encore très très clair parce que c'est des études qui prennent c'est des études longitudinales qui prennent énormément de temps. C'est du prospectif. Et du coup, voilà, on commence à avoir des signes, mais il y a encore besoin d'avoir un peu des données pour pouvoir confirmer un peu ces premiers signes.
Normal. Je reviens à ce que tu disais, c'était que donc c'était la force, une perte de force à vitesse lente. Du coup, c'est surtout ce qui est accélération, c'est pas sur de la vitesse max, c'est tout ce qui est passé de zéro à on va dire de la vitesse, quoi. C'est ça qui était le plus difficile après blessure.
Mais en tout cas, c'est vrai, c'est là où on repérait encore une déficience. C'était en gros sur les productions de force horizontale sur les 5-10 premiers mètres qui étaient en deçà de soit ce que le joueur était capable de faire avant quand on a les mesures avant blessure, mais c'est des choses qui sont relativement rares, soit par rapport à des joueurs de même niveau au même moment qui ne s'étaient pas blessés. Mais c'est sûr, c'est premiers mètres du sprint. Alors bon, voilà, ça soulève pas mal de questions parce qu'il y a quand même souvent l'idée que la blessure intervient à vitesse très élevée.
Ouais.
Après, le fait que le muscle soit déficient dans la production de force à vitesse faible, ça peut ne pas être lié au fait qu'il se blesse une fois qu'il est à vitesse élevée. Hein. C'est peut-être des choses qui sont aussi déconnectées. Mais c'est des choses, voilà, qu'en mettant, parce que bon, il y a beaucoup de littérature à ce sujet-là. Ce qu'il faut, voilà, c'est mettre un peu en lien tous les bouts de ficelle de la littérature qui permettront d'avoir une compréhension un peu de ce qui se passe et de ce qu'on observe.
D'accord. Ouais, il y a beaucoup de choses de faites et il y a encore plein de choses à faire. C'est impressionnant. Hein.
Ouais, non, c'est impressionnant et ça prend du temps. Et c'est vrai que souvent on est un peu rattrapé par c'est des fois ce qui crée peut-être des incompréhensions entre les domaines très appliqués, que ce soit même les domaines de la rééducation et les domaines ou le domaine de la prépa physique de l'entraînement, avec le domaine de la recherche où d'un côté il y a besoin de choses très rapides tout de suite parce que on n'a pas le temps d'attendre, on a des patients ou des joueurs en face de nous et on n'a pas le temps d'attendre 2-3 ans pour avoir nos réponses, et le domaine de la recherche où il y a besoin de temps pour amener des preuves ou en tout cas pour pouvoir développer un peu de répondre à des questions, etc. Et c'est ce qui est des fois un peu frustrant d'un côté et puis frustrant de l'autre parce qu'on n'arrive pas à aller aussi vite que ce qu'on voudrait. Mais oui, ça, il y a encore beaucoup de choses à faire et qui prendront encore pas mal de temps à mettre en place.
C'est bien, tu fais le passé et le message pour tous ceux qui écoutent. Il faut encore quelques années avant de tirer des grandes lignes, mais ça donne déjà quand même des bases hyper intéressantes en pratique. Alors, c'est l'application, vous avez développé une application, je crois, c'est MySprint, c'est ça?
Alors, il y a deux applications qui ont été développées sur la base de nos travaux. Il y a MyJump et MySprint. Alors, ces deux applications, alors c'est pas nous qui les avons développées. Nous, on n'est ni développeur de l'application, ni propriétaire de l'application, ni bénéficiaire des retombées de l'application en termes de financiers. C'est juste que ces
D'accord.
applications, elles ont utilisé
Elles utilisent
les approches,
les calculs,
les méthodes, et voilà, les calculs, les méthodes qu'on a validées d'un point de vue scientifique et qu'on a publié. Donc à partir du moment où c'est publié, ça appartient au public. Et donc moi, là il se trouve que c'est des personnes avec qui on collabore qui les ont développées. Et nous, ça nous intéressait que tant qu'à ce que nos approches et nos méthodes soient utilisées dans les applications, autant qu'on soit connecté pour justement que l'utilisation elle soit faite dans des bonnes conditions. Et dans les limites de ce que nos méthodes permettent. C'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure, nos méthodes sont pas universelles, et elles ont certaines limites, et c'est bien que ces applications n'aillent pas au-delà des limites de ce qu'on peut faire avec ces méthodes.
Et du coup, justement, est-ce que, avec ces applications, est-ce que vous récupérez les données qui vous sont envoyées et est-ce que vous arrivez, par exemple, à les traiter et à affiner encore plus les profils ou est-ce que vous avez aucun regard sur ce qui est récupéré?
Non, on n'a aucun regard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de stockage, en tout cas pas à notre connaissance, de stockage de base de données de tous les utilisateurs qui alimentent une base de données enfin, moi, de ce que je sais, et puis on en sait quand même pas mal sur cette application parce qu'on est en bonne relation avec les développeurs, que voilà, quand vous faites une évaluation en forte vitesse, normalement les données elles sont enregistrées sur votre appareil et elles sont pas mises en ligne. Donc non, nous on a aucun retour. Par contre, on a des retours d'utilisateurs sur ce qu'ils en font. Et nous, alors comme je disais tout à l'heure, on n'a aucun lien financier avec ces applications. Après nous, ça a été l'aboutissement de nos activités de recherche et dont l'axe dont je parlais de développer des méthodes qui permettent de démocratiser ce qui était fait dans des laboratoires depuis une trentaine d'années, mais qui n'était pas fait ou pas utilisé par les gens sur le terrain parce que inaccessible. Donc ça a permis que ça les rende accessibles. Et du coup, nous, ça nous a nourri aussi parce que de plus en plus de monde utilisait ces approches et donc on avait des retours de questionnement de terrain auxquels on essayait de répondre. Donc ça a nourri aussi nos problématiques de recherche, le fait que le fruit de notre travail était utilisé sur le terrain grâce à ces applications.
Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien parce que du coup, on dirait que vous avez découvert ou redécouvert une partie immergée de l'iceberg et du coup, en l'utilisant, ben, il y a la partie, on va dire, qui est sous l'eau, qui apparaît, et tu te dis, putain, il y a encore tellement de choses à aller chercher, c'est énorme. Hein.
Ouais, non, c'est puis ben, après, c'est ce qui est aussi passionnant de notre côté. On est quand même très proche du terrain, de par le domaine de nos activités de recherche. Hein. On a des collègues qui bossent sur des aspects beaucoup plus microscopiques, donc du coup, qui les éloignent un petit peu de certaines des applications terrain. Donc nous on a cette chance là d'être assez proche du terrain et on se nourrit beaucoup des retours et des échanges qu'on a avec les collègues qui bossent sur le terrain et qui utilisent ces approches dans leur quotidien.
J'avais des questions aussi. Tu as publié sur la pose du pied en course à pied, entre autres. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu avais trouvé et ce qui était intéressant à noter là-dedans?
Ouais, du coup, alors ça c'était un projet qu'on avait du coup développé avec Salomon justement. Donc là, moi j'avais basculé sur le côté universitaire et donc ça a été le cadre d'un projet de thèse d'une étudiante qu'on a encadrée avec JB Morin et Nicolas Orvet qui était le collègue scientifique chez Salomon, enfin qui y est toujours même. Donc c'est Marlène Giandolini qui avait travaillé sur cette thématique. Donc c'est justement un projet, comme on parlait tout à l'heure des projets avec les entreprises, où Salomon était intéressé par non pas tester des produits, mais de mieux comprendre la course à pied, dans le but bien sûr derrière de pouvoir mieux développer leurs produits et mieux les vendre. Donc il y a toujours un but financier derrière, mais
Logique.
en tout cas la recherche n'était pas sur du produit, elle était sur la meilleure compréhension de la course à pied. Et là c'était la problématique, c'était de mieux comprendre. Alors on était dans le plein boom de sur toutes ces questions sur la pose de pied, sur le minimalisme, sur l'avant-pied, arrière-pied, etc. Salomon a été un peu prudent sur cet effet de mode ou pas, hein, en tout cas sur cet élan qu'il y a eu dans les années 2010, et s'est dit on veut mieux comprendre quel pourrait avoir l'impact de la pose de pied sur ce que va encaisser le squelette, pardon, encaisser l'organisme pendant la course à pied. Donc que ce soit des chocs encaissés sur le squelette ou que ce soit tout ce qui va pouvoir altérer la fonction neuromusculaire, c'est-à-dire les chocs encaissés par les tissus mous et notamment les muscles, qui est un des facteurs importants sur le trail, parce que du coup l'activité sportive en appui de ce projet, c'était quand même le trail. Donc on s'est intéressé, donc c'est un projet qui a duré 3 ans, le temps de la thèse de Marlène. On s'est intéressé à essayer de mieux comprendre le lien entre pose de pied et dommage musculaire ou altération de la fonction neuromusculaire et impact encaissé par le squelette. Et on s'est focalisé sur les parties de descente, parce qu'en fait, c'est quand même sur le trail, ils disent souvent que les courses se gagnent en descente, pas obligatoirement parce que c'est celui qui descend le plus vite qui gagne, mais plus parce que c'est celui qui gère mieux sa descente. Et du coup, qui arrive en bas moins traumatisé, qui pourrait être mieux sur la montée d'après. Donc, il y a un gros intérêt à savoir gérer sa descente. Alors, pour Salomon, c'était aussi d'être capable de fabriquer des chaussures, non pas que pour la descente, mais des chaussures qui permettent de mieux gérer ses traumatismes. Et donc voilà, on a étudié donc l'effet de la pose de pied, donc plutôt on va dire arrière-pied, avant-pied ou milieu-pied, sur la fatigue neuromusculaire à la fin d'une descente un peu traumatisante, et puis sur les chocs encaissés par le squelette pendant ces phases de descente.
D'accord. Et du coup, alors, qu'est-ce que c'est, vous aviez combien de trailers?
On avait une trentaine. Alors, il y a eu plusieurs études, hein, dans ce projet, mais la grosse étude du projet de ce projet-là, c'était une. J'ai plus enfin, entre 25 et 30 trailers qui faisaient. On avait une descente à côté du laboratoire, là, au Bourget du Lac, de 1250 mètres de dénivelé négatif. Et du coup, bon, avec un sentier qui était très diversifié dans les revêtements, des fois roulants, des fois techniques, etc. Et donc, dans le panel de trailers qu'on avait pris, on avait différentes manières de courir et de poser le pied. C'était un peu le challenge, c'était d'avoir de couvrir un spectre assez large. Et derrière, en fait, on mesurait leur capacité musculaire avant et après, donc par des tests, donc des tests de force, mais aussi des tests neuromusculaires, c'est-à-dire qu'on vient stimuler un petit peu le muscle pour essayer de voir dans la fatigue la part du cerveau, en gros du système nerveux central, et la part du musculaire. Savoir est-ce que
D'accord.
la fatigue est liée à une fatigue parce que les fibres musculaires sont endommagées et puis elles se contractent moins bien, ou alors est-ce que c'est parce que le cerveau met un coup de frein et sent qu'il y a quelque chose qui va moins bien et du coup c'est lui qui freine. Donc voilà, il y avait des tests de ce type-là avant-après. Puis après, en fait, pour cette étude-là, il fallait qu'on appréhende la pose de pied pendant toute la descente. Donc, vu la problématique de l'étude, il était impensable de faire cette étude en laboratoire, parce que l'objectif, c'était de voir la pose de pied sur un terrain type trail, c'était pas de voir la pose de pied sur un tapis roulant. Et donc, en fait, on a développé en amont, on avait développé une méthode simple, là aussi, qui nous a permis de mesurer la manière de pied à chaque pas sur toute la descente. On avait posé des capteurs sur la chaussure qui nous permettaient d'avoir exactement la pose de pied à chacun des pas. Donc, ce qui nous a permis de voir comment les coureurs couraient pendant la descente et de mettre ça en relation avec les impacts qu'ils encaissaient pendant à chacun des parts. Donc là, c'était des accéléromètres qui étaient sur le niveau du tibia et au niveau du sacrum. Et la fatigue neuromusculaire qui était engendrée par cette descente.
D'accord. Et est-ce qu'il y avait de la pré-fatigue, c'est-à-dire est-ce que vous les faisiez monter justement les 1200 de dénivelé et après vous enchaînez avec la descente, ou est-ce que vous les montiez en voiture avant de descendre?
On les montait en voiture parce que là, on a vraiment voulu isoler
La descente.
la fatigue qui était générée par cette descente. Si on les avait fait monter, ça aurait été compliqué de différencier dans la fatigue ce qui était induit par la descente et ce qui était induit par la montée. Donc là, on avait fait le choix. Alors après, comme tout choix scientifique, hein, il y a des avantages et des inconvénients, mais on avait fait le choix justement d'isoler le côté descente.
D'accord. Et les capteurs que vous leur avez placés, est-ce que ça induisait justement un changement, on va dire, malencontreux de pose de pied, ou est-ce que vous aviez déjà testé et que les coureurs s'y habituaient et que ça passait bien, quoi?
Non, on l'avait déjà testé en fait. Donc on l'avait déjà testé et validé. C'est-à-dire que c'est une méthode qui avait été validée. Donc là en laboratoire par rapport à l'analyse vidéo pour avoir l'angle de pose de pied. Donc en fait on avait validé la méthode où on avait confronté les deux et on avait regardé qu'il y avait peu d'erreurs en tout cas sur la détermination de la pose de pied. Derrière on l'avait testé. On a eu la chance de pouvoir le tester sur Kylian Jornet lors d'une course officielle.
Ah, c'est énorme.
Ouais, sur la Kylian classique, alors, je sais plus si c'était 2011, peut-être 2012, où on avait mesuré toute sa course, et justement comment il pose le pied, parce qu'il y a pas mal de questions à l'époque sur ce genre de choses-là, comment il pose son pied pendant toute une course. Et on s'est aperçu qu'il posait le pied, il était quand même pas mal milieu pied, avant pied, même sur des zones de descente, mais qu'il était capable aussi d'avoir des grandes zones sur lesquelles il était en arrière-pied aussi. Donc on avait déjà éprouvé un peu la méthode. Et en fait, c'est des capteurs qui se posent par-dessus la chaussure. Donc en fait, ça ne gêne en rien le coureur.
D'accord. Et du coup, alors les résultats que vous avez eus, qu'est-ce que ça donnait?
En fait, un peu contre toute attente, parce qu'à l'époque, en replaçant dans le contexte, c'est une thèse qui a commencé en 2012, donc en replaçant dans ce contexte-là, c'était quand même beaucoup de choses qui allaient vers avant-pied. Que bon, être un
Ouais,
peu plus sur
minimaliste.
milieu pied avant pied, ça résolvait pas mal de problèmes. Et en fait, on s'est aperçu que les coureurs qui étaient les moins fatigués, en tout cas qui étaient les moins fatigués par la descente, c'était ceux qui étaient capables d'alterner leur manière de courir, de poser le pied. C'est ceux qui avaient dans leur en gros dans leur boîte à outils la capacité de courir un peu sur l'avant, de basculer sur l'arrière-pied, d'être en milieu pied. Et en fait, eux, ceux qui avaient cette capacité d'alterner, c'est ceux, quand ils arrivaient en bas, qui avaient le moins de fatigue au niveau des quadriceps et des mollets. Par contre, ceux qui étaient que sur l'avant-pied ou que sur l'arrière-pied, eux, ils arrivaient soit avec les mollets qui étaient complètement détruits, soit les quadris qui étaient complètement aussi altérés.
Et est-ce que, alors justement, pour ceux qui avaient les capacités de switcher d'une pose de pied à l'autre, est-ce que vous avez remarqué par rapport à la descente et à la pente qu'il y avait, que justement, en fonction, je sais pas, du pourcentage de pente, eh ben, ils étaient tous sur un type, et puis après, quand c'était un peu plus tranquille, ils passaient tous sur un autre. Est-ce qu'il y avait un effet de la pente là-dessus?
Alors, on a essayé de regarder tous les facteurs environnementaux qui pouvaient influencer cette pose de pied. On a regardé rien que déjà la vitesse, parce qu'il pouvait y avoir aussi un effet de la vitesse, ils ne descendaient pas tous à la même vitesse. Il pouvait y avoir un effet du revêtement, il y avait des parties plus roulantes que d'autres. Il pouvait y avoir un effet fatigue aussi, savoir est-ce que sur une fois qu'ils sont fatigués sur la fin, ils étaient plus peut-être en arrière-pied et peu moins en milieu pied. La pente, on a dû un peu l'étudier parce qu'après, bon, sur la descente, on pouvait pas analyser toutes les sections parce enfin, il fallait analyser des sections qui restaient de la course à pied dans lesquelles il pouvait y avoir des impacts et des dommages. Les parties qui étaient trop techniques ou qui n'étaient pas assez roulantes, c'est des sections qu'on mettait de côté pour l'analyse justement de la pose de pied. Sur la pente, on avait dû regarder. Alors peut-être qu'on n'avait pas un panel de pentes trop différentes pour voir un effet pente. En tout cas, c'était pas ressorti. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet pente du tout, hein. L'étude, elle n'avait pas été mise en place pour ça. Mais on avait essayé de regarder et en fait, à l'arrivée, il n'y avait pas trop enfin, c'était pas trop une question on va dire, de contraintes environnementales. C'était plus ceux qui étaient capables, alors inconsciemment ou consciemment, de switcher d'une manière ou d'une autre sur les différentes poses de pied.
Est-ce que vous leur avez posé la question justement si pour savoir si c'était tu vois quand ils finissent leur course, est-ce que vous leur avez dit ben d'après toi quelle façon tu as de courir en descente et est-ce qu'ils avaient justement conscience de switcher, tu vois, est-ce que c'était volontaire pendant la descente de se dire ah ben là je commence à fumer un peu au niveau des mollets donc je vais rattaquer un peu talon ou est-ce que c'était vraiment inconscient et c'était habituel quoi.
On n'a pas posé la question. Alors après, il faudrait demander à Marlène justement qui peut-être elle a plus discuté avec les coureurs, mais non, on n'a pas fait de quantification de ressenti comme ça. Alors bien sûr, il y avait du ressenti de perception de l'effort, de dommages musculaires, etc. Pas sur ce niveau de conscience de la pose du pied. Après, dans ce genre d'études, justement, où on essaie d'évaluer le comportement normal d'un individu, on lui donne des indications sur ce qu'il va faire pendant l'étude. Ça, c'est légal et c'est obligatoire. Par contre, des fois, on ne rentre pas trop dans le détail de ce qu'on cherche à mesurer pour pas influencer leur comportement. Ouais. Donc ça, ils n'étaient pas trop au courant de qu'on allait exactement chercher à mesurer ça, même si à un moment donné, quand il y a les capteurs qui sont posés, ils se doutent de ce qu'on cherche à évaluer.
D'accord, parfait. Bon, merci pour cette explication. Et j'avais aussi une question sur une des dernières publications que tu as faites. Tu as publié sur l'escalade et sur justement le profil force-vitesse de, je crois que c'était donc grimpeur de bloc, de voie et de vitesse. Et ça va faire très plaisir à mon entourage où il y a beaucoup de grimpeurs. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces différents profils?
Oui, alors ça c'est un projet qui vient de Guillaume Levernier et puis Guillaume Lafaille qui était sur je crois l'université Paris Sud. Donc Guillaume Levernier qui est plus dans le domaine, alors c'est un qui était en thèse sous la direction de Guillaume Lafaille sur Paris, qui bossait sur l'escalade et donc il y avait une thèse en lien avec l'escalade et il a eu la volonté de voir un peu si en fonction des différentes disciplines, donc qui vont devenir disciplines olympiques en escalade, il y a des profils musculaires qui sont différents. Donc l'idée c'était déjà d'aller évaluer ces profils musculaires sur des mouvements qui sont spécifiques à l'escalade. Donc là c'était sur de la traction, donc sur des groupes musculaires qui vont être utilisés en escalade et qui sont assez importants en escalade. Et justement trois disciplines qui sont assez différentes, donc le bloc, la vitesse et côté technique,
si difficulté.
Difficulté, voilà, qui sont très différentes mais qui vont être combinées sur les jeux. Donc voilà, c'était un peu d'explorer. Voilà, il y avait l'aspect on va appliquer une méthode existante à ce mouvement d'escalade. Donc ça valide un peu une nouvelle méthode d'exploration sur de la traction, ce qui était un peu fait avant. Et l'autre versant, c'est quand on l'applique aux meilleurs grimpeurs français, est-ce que on voit qu'il y a des profils un petit peu musculaires différents entre les disciplines. Ce qui peut commencer, alors ce qui peut être utilisé un peu comme de norme à partir du moment où c'est des grimpeurs élites. Alors c'est jamais bon hein, de dire que les grimpeurs élites représentent une norme, mais en tout cas ça peut servir à défaut d'autre chose comme première valeur normative ou de repère pour l'entraînement sur ces groupes musculaires là.
Et du coup alors quelle différence y avait entre les différents profils de grimpeurs?
Alors en fait, comment dire, ce qui peut être surprenant, mais peut-être pas tant que ça pour les gens qui connaissent bien la discipline, hein, c'est que les grimpeurs en difficulté ou en vitesse avaient des profils un peu similaires, et c'était surtout les grimpeurs de bloc qui se différenciaient avec des profils plus en vitesse, des profils un peu plus puissants et plus orientés vitesse que les deux autres disciplines. Alors je dis ça peut être surprenant parce qu'on pourrait s'attendre à ce que la discipline vitesse soit plus en vitesse que le bloc, où on va dire que les mouvements sont plus en tout cas, il n'y a pas cette contrainte temporelle aussi forte que sur la discipline vitesse. Après, là, on est sur des capacités musculaires. Quand on dit les qualités de vitesse, c'est pas la capacité à se déplacer vite, c'est la capacité à contracter vite ses muscles. Ce qui, des fois, revient à la même chose. Mais par exemple, dans ce cas-là, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que pour pour aller vite, on va dire sur la discipline vitesse, il faut peut-être pas contracter vite ses dorsaux, qui sont ce qu'on va évaluer sur un mouvement de traction. Alors que par contre, quand on est en bloc sur une position où il faut aller faire un jeté pour aller attraper une prise, et là il va falloir s'éjecter très vite. Là peut-être que la contraction rapide des dorsaux est vachement importante, ou la puissance générée par les dorsaux sont vachement importantes. Et donc c'est en tout cas ces grimpeurs se caractérisaient par ces profils un peu plus en puissance et un peu plus en vitesse de contraction que les autres.
D'accord. Et vous avez évalué donc que le, on va dire, la force de traction et que les dorsaux. Vous n'avez pas évalué les membres inférieurs.
Non, là c'était, enfin, il avait focalisé son étude sur les membres sup. Après voilà, ça c'est une étude. Moi j'ai contribué en faisant un appui sur les aspects force, vitesse, méthodologie, interprétation, etc. Et j'étais pas à la naissance du projet sur la construction du protocole. Mais bon voilà, il s'est focalisé sur les membres sup. Alors après, je pense que sur les membres, ça pourrait être aussi, il pourrait y avoir des choses intéressantes à faire.
C'est clair, puis combiner les deux, ce serait ouf. Du coup, alors merci pour ton éclairage. Est-ce que tu peux nous parler un peu des recherches qui sont en cours, si tu as on va dire le droit et si tu peux le faire?
Oui, bien sûr, hein, il y a rien de secret à ce niveau-là. En gros, actuellement, on continue à travailler sur ces profils forte vitesse, que ça soit saut ou sprint. Là, on est une fois qu'on voilà les étapes, c'était l'évaluation, les liens avec la perf. Maintenant, on est un peu dans le côté entraînement. Comment entraîner au mieux ces qualités, et en gros, et aussi, est-ce que utiliser ces profils forte vitesse pour individualiser l'entraînement, ça permet d'être plus efficace dans l'amélioration des performances en général. Donc bien sûr, quand je parle de performance, c'est pas est-ce qu'on gagne plus de matchs ou pas, c'est est-ce que sur des mouvements explosifs, on est plus performant. En partant du principe qu'il y a beaucoup de sports dans lesquels être plus performant sur des mouvements explosifs, ça contribue,
c'est un avantage,
à côté de plein de choses, plein d'autres choses, à être plus performant sur le terrain. Donc on essaie de voir est-ce que, en tout cas de voir, nous on y est un peu persuadé, mais dans quelle mesure la prise en compte des profils pour individualiser l'entraînement, on a une plus-value dans le gain de perf de tout le monde. C'est-à-dire de se détacher un peu de la moyenne du groupe et d'aller un peu plus sur si on prend chaque individu et qu'on réagit sur chaque individu, et en moyenne le groupe s'améliore encore mieux que si on prenait tout le monde. Tout le monde sur le même plan d'entraînement. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc on continue à bien bosser là-dessus, en lien aussi avec les aspects blessures, de voir dans quelle mesure ces modes d'évaluation fonctionnels, simples, etc., peuvent venir contribuer à la gestion de la blessure, que ça soit en retour au sport ou que ça soit en prévention. Ça, c'est le premier aspect. Et après, le deuxième gros axe qu'on développe actuellement, et c'est ce que j'ai commencé à développer avec un étudiant en thèse qui a soutenu l'an passé, c'est de rajouter un axe temporel à cette relation force-vitesse, c'est-à-dire de voir comment ces capacités de production de force évoluent avec la vitesse, mais dans le temps aussi. C'est-à-dire avec la répétition des contractions et la répétition des efforts, comment tout ça évolue. Donc c'est plus en lien un peu avec de la fatigue et de l'endurance de force. Donc ça, c'est vraiment les projets qu'on a actuellement.
Et c'est sur une même séance, c'est pas sur des séances répétées dans la semaine ou...
Pour l'instant, là, on se consacre à l'évolution de cette production de force dans le temps sur un effort donné, c'est-à-dire sur un demi-mètre en aviron, sur pourquoi pas une phase de jeu en rugby où il va y avoir plusieurs contractions, mais aussi on part aussi sur des sports qui sont étiquetés un peu plus endurance, où les aspects anaérobie sont aussi importants, alors que ça peut être la course à pied, le trail, le ski de fond, dans lesquels justement cette capacité d'endurance, de force, elle a aussi sa part. Oui, c'est ça, ouais. Elle est vachement importante. Alors, bien sûr, il y a une part aérobie qui est prédominante, mais la part anaérobie est assez importante, et justement, cette endurance de force, on se rend compte qu'elle est très dépendante de la vitesse à laquelle la contraction se fait. Donc en fait, il y a vraiment une interaction entre cet axe force-vitesse et cet axe force-temps endurance de force,
Ouais, d'accord.
et que les deux interagissent. Et puis donc ce qu'on a vu avec Jean-Romain Rivière, là, mon étudiant en thèse ces dernières années, c'est justement que quelqu'un qui va être endurant à vitesse élevée, par exemple, ne le sera peut-être pas du tout à vitesse faible, et vice-versa. Et donc, il y a quand même une
D'accord.
spécificité de l'entraînement de l'endurance de force ou de la puissance endurance au niveau de vitesse auquel on va solliciter cette endurance de force.
Wow. C'est encore des trucs top à trouver là.
Ouais, là, c'est, enfin, on s'amuse bien. Ouais, c'est assez passionnant parce que c'est on relie avec tout un autre pan de la littérature. Donc sur des aspects un peu plus énergétiques, un peu plus dans la durée, sur ce qui est avec la fatigue. Là, on a un collègue qui est arrivé l'année dernière, là, Baptiste Morel, qui était bien sur ces aspects-là, donc sur cet autre pan de la littérature. Et donc du coup, là, c'est vrai que là, y a tout qui accélère bien. Donc le fait de bosser bien en équipe comme ça, enfin, c'est vachement intéressant parce que du coup, on avance, on progresse même plus vite. Ouais.
Et puis chacun a sa spécialité et chacun apporte au groupe, quoi.
Exactement.
Alors, ta journée type, est-ce que tu peux nous décrire un peu, justement, entre la partie recherche et entre la partie enseignement? Est-ce que c'est régulier? Est-ce que tu fais les deux tous les jours ou est-ce que tu as des journées entières consacrées à l'un ou l'autre des domaines?
Ouais, justement, il n'y a pas de journée type. C'est très variable. Alors, c'est ce qui est aussi sympa dans ce métier. Non, il y a l'enseignement, on n'en a pas tous les jours. On en a une quantité. Importante, mais on n'en a pas tous les jours. Donc, et puis c'est pas réparti de manière homogène. C'est pas, enfin, en tout cas moi dans mon emploi du temps, c'est pas tous les lundis j'ai cours, ou alors tous les presque on pourrait voir annualisé tous les mois de septembre-octobre j'ai du cours, et puis janvier-février j'ai plus de cours. Non, ils sont, enfin, de mon côté ils sont assez répartis dans l'année. Après, il y a quelque chose qu'on fait quasiment tous les jours, c'est des aspects administratifs, que ça soit en lien avec l'enseignement ou la recherche, parce qu'effectivement on a des tâches. On a des missions d'enseignement et de recherche, mais on a énormément de missions aussi administratives en lien avec l'enseignement ou en lien avec la recherche. Et ça, c'est vrai que c'est des choses comme dans tous les métiers, hein, qui sont très chronophages, qui prennent beaucoup de temps, qui sont indispensables, mais c'est souvent pas la partie qui est la plus passionnante, on va dire, mais qui est nécessaire. Donc voilà, ça c'est un peu frustrant parce que du coup, ça prend de la place sur les autres parties, ben, tout ce qu'on vient de parler, où on aurait envie d'aller plus vite. Donc oui, en fonction des journées, ben, voilà, entre l'enseignement, l'administratif et la recherche, il y a des choses qui prennent, en fonction des jours, ça prend plus ou moins de place. Après, dans la recherche, il y a tout l'encadrement des doctorants, c'est des vrais collègues avec qui on avance. Enfin, voilà, ça fait partie de nos activités de recherche. Ils ont dans les mains des projets qu'on pilote. Mais voilà, il y a la partie formation aussi qui vient en plus, la formation à la recherche des doctorants qui aussi, et ben voilà, une partie du métier qui est passionnante, mais voilà, qui prend aussi un peu de place par-ci par-là en fonction des semaines. Donc voilà, pas de journée type, voilà, une répartition, alors pas toujours équilibrée entre les trois domaines. Le bien du mois de juillet, justement, c'est que la partie recherche prend plus de place, étant donné que les deux autres parties sont un peu plus en stand-by vu le moment de l'année. Donc effectivement, là, le mois de juillet, c'est assez sympa parce que ça nous permet de reprendre du temps sur pas mal de projets qu'on met un peu de côté tout au long de l'année. Et voilà. Bon, souvent, on a peut-être l'impression que voilà, au mois de juillet, les universités sont fermées, donc il y a tout le monde qui est en vacances. Et en fait, pas tant que ça, parce que justement, c'est aussi une bonne période pour nous pour pouvoir travailler sur tous les projets. Alors pas qu'ils sont pas prioritaires, qui sont prioritaires, mais qui passent souvent derrière le reste, parce que le reste, il y a des échéances, il y a des étudiants en face de nous, et on peut pas décaler les choses quand il y a des étudiants qui sont en attente derrière la porte du bureau ou en face de nous en classe.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous citer un peu les gens qui t'inspirent et les livres, on va dire tes livres de chevet, quoi?
Alors les gens qui m'inspirent, alors bon, il y en a, enfin j'allais dire il y en a beaucoup parce qu'on s'inspire, enfin on s'inspire de beaucoup de personnes, et puis ce qu'on est et ce qu'on fait dans nos activités, c'est quand même le fruit de toutes les inspirations qu'on a. Peut-être, enfin on se construit pas tout seul, et en fait on se construit beaucoup avec l'influence des autres. Après, les gens qui ont pas mal influencé nos activités de recherche et bon, les miennes en particulier, bah, il y a Carmelo Bosco. Comme je disais tout à l'heure, on n'a rien inventé. Il y a beaucoup de choses qui existaient déjà et il y a des gens qui s'étaient déjà mis dans les rails, des rails que nous on a utilisés derrière et Bosco en fait partie sur un peu cette connaissance de la mécanique musculaire et la volonté d'amener au terrain ce qui appartenait qu'au laboratoire avant. Et nous on a pris la suite. Ça serait, comment dire, un manque d'humilité de dire qu'on a pris la suite, mais en tout cas, on essaye de se mettre dans ces rails-là pour continuer à avancer. Donc c'est vrai que Bosco nous a beaucoup influencé, nous influence toujours beaucoup. Il y a le professeur donc Pietro Di Prampero de l'université d'Udine, qui nous inspire beaucoup et encore actuellement, on a la chance de pouvoir avoir des échanges avec lui assez régulièrement et il nous influence par sa simplicité de pensée et simplicité dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il arrive à appréhender des phénomènes hyper complexes de manière assez simple. Et c'est ce qui est extraordinaire chez lui. Et bon, il est mondialement et internationalement enfin, connu depuis décennies. Et il continue à l'être. Il a fait, voilà, en termes de physiologie d'exercice, c'est un grand monsieur. Et il a une simplicité d'approche des phénomènes physiologiques, mais aussi une simplicité d'être dans sa manière d'être, avec une grande humilité. Et c'est vrai que bon, voilà, c'est ce genre de personne qui nous influence beaucoup, et en tout cas moi personnellement, voilà, que j'ai toujours dans un petit coin, comme un peu un guide dans ce qu'on peut faire, mais que ça soit même dans la vie de tous les jours, comme dans notre métier et puis dans nos activités de recherche. Et bon, après bon, y a un autre chercheur enfin, on n'a pas eu la chance de trop côtoyer, c'est Robert Alexander, qui est un biologiste, un zoologiste anglais, qui travaille donc plus sur la biomécanique au niveau des animaux et en tout cas, moi, pendant ma thèse, je me suis beaucoup inspiré de ces articles. Et là aussi, c'est quelqu'un qui avait cette faculté à modéliser des phénomènes complexes de manière assez simple pour pouvoir en tirer l'information dont il avait besoin. C'est-à-dire qu'il n'essayait pas de rendre plus complexes les choses, il mettait le niveau de complexité en phase avec les questions qu'il avait. Et c'est pas toujours évident, parce qu'on a souvent tendance à rendre les choses bien plus complexes que ce qu'on a besoin pour répondre à nos questions. Et ça, c'est vrai que ça a pas mal guidé aussi notre, en tout cas, c'est ce qu'on essaye. On essaye de s'inspirer de ça dans nos activités de recherche.
Et il me semble que c'est une des définitions de l'intelligence de rendre simple et accessible ce qui est complexe.
En tout cas, nous, c'est ce qui nous séduit. Et c'est une définition qui nous va bien. Qui nous va bien pas dans le sens ce qu'on attribue à nous-mêmes, mais en tout cas, c'est ce qu'on admire chez ces personnes, en tout cas, qui guident un petit peu nos pensées.
D'accord. Et du coup, au niveau des livres, qu'est-ce qui t'aide et qu'est-ce qui te passionne quand tu le lis ou quand tu le relis?
Alors les livres, j'ai un défaut, et c'est un défaut que j'aimerais bien ne pas avoir. Je suis pas un grand lecteur, et ça depuis tout petit, alors que j'adorerais plonger dans des livres et puis me remplir de connaissances par la lecture. Alors dans le cadre de mon métier, je lis beaucoup des choses bah, pour voir ce qui se fait ailleurs et puis pour améliorer mes connaissances dans mon domaine, mais là je parle plus de lecture extra professionnel. Donc je suis pas un grand lecteur. Donc voilà, j'ai pas. Et puis bon, alors les livres dans le côté performance et sport, il y en a plein qui sont intéressants et je me risquerai pas à aller donner certaines références. Après, à la limite, le livre auquel je pense des fois dans mon quotidien, ça peut faire rire parce que c'est du basique, hein, c'est un livre que j'ai lu comme beaucoup d'entre nous qu'on a lu quand on était petit à l'école. Et que j'ai relu il y a quelques années, c'est pour ça que j'en parle, c'est Le Petit Prince,
Je le sentais arriver.
alors bon, après j'ai pas un panel de livres qui est énorme, mais en tout cas c'est un livre donc que j'ai redécouvert il y a 3-4 ans en vacances, J'avais fait la lecture avec la lecture d'un enfant de CE1 ou de CE2 à l'époque où j'avais pris ce qu'il y avait à apprendre avec cette lecture-là. Puis là, en étant adulte, ben, on prend d'autres choses. Et là aussi, ben, c'est un peu dans, c'est des illustrations, je trouve, simples et basiques, parce que ça reste, enfin, je pense que beaucoup trouvent ces sont des choses un peu basiques, mais sur des phénomènes ou sur des pensées qui sont bien plus complexes que ça. Et c'est vrai que je suis assez séduit. Et il y a plein de passages où, dans mon quotidien, ben, je sais que ça, enfin voilà, je fais des liens avec certains passages de ce livre. Voilà, ça peut faire sourire, mais c'est, voilà, ça fait partie des livres qui m'ont marqué, en tout cas.
Ouais, et puis ça revient souvent quand tu discutes avec les gens, ce livre-là, et tu as plusieurs niveaux de lecture dans ce livre, tu vois, comme tu disais, c'est-à-dire que tu peux lire on va dire en primaire et kiffer les illustrations et comprendre globalement le sens, tout ça, et tu peux le relire même plusieurs années après, des dizaines, des vingtaines d'années après, et retrouver un sens un peu plus profond et te dire, oh, mais en fait, à chaque moment, on va dire, de ta vie, tu peux y trouver ton compte dans ce livre.
Ah,
C'est
exactement.
impressionnant.
Je pense que c'est toute la force de ce livre. Et c'est vrai que c'est assez profond. Ça fait beaucoup réfléchir. Tourné de manière très enfantine, mais il y a des réflexions bien plus, enfin, sur la vie qui sont bien plus profondes dans ce livre. Donc voilà, puis ça va un petit peu avec ce qu'on a dit avant sur le côté un peu. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller dans des choses hyper complexes pour pousser. Ou des concepts ou des réflexions intéressantes. Voilà, ça
Comme,
résume bien un petit peu, voilà,
comme.
ce côté-là.
Merci Pierre. Pour finir, est-ce que tu as une adresse email ou des réseaux sociaux sur lesquels pardon, sur lesquels tu es le plus actif et où on peut te joindre facilement?
Alors, je suis un petit peu sur les réseaux sociaux, je suis pas hyper actif non plus. Par contre, j'y suis, donc Twitter, Facebook. Alors, j'y suis surtout à titre professionnel, plus qu'à titre personnel. Par contre, c'est vrai que ce sont des super sources d'informations pour rester connecté à tout ce qui se peut faire dans le domaine professionnel, en tout cas, enfin dans le domaine des sciences du sport. C'est pas quelque chose qui est suffisant pour appréhender tout ce qui sort. Par contre, c'est un bon relais d'information. Donc voilà, Twitter, Facebook, ResearchGate, qui est plus le côté très recherche des réseaux sociaux. Et après, je suis aussi sur LinkedIn, mais j'y suis beaucoup pour les réseaux des étudiants. Ça leur permet d'avoir un relais par rapport à notre réseau à nous. Donc ça fait un tremplin pour eux pour avoir un peu rentrer un petit peu dans le réseau des sciences du sport. Donc voilà, je suis un peu sur ces différents réseaux sociaux, voilà, beaucoup moins actif que certains collègues. Mais voilà, j'ai du coup, enfin, possibilité de me contacter par ça, ou même enfin, en allant sur Internet, on trouve facilement mon adresse mail aussi.
Parfait. Impeccable Pierre, merci beaucoup.
Et ben, merci à toi. C'était un bon moment d'échange.
C'était ouais, et c'était une discussion hyper plaisante et ça aurait pu durer encore un moment.
Ouais.
Mais bon voilà, on est tenu le temps, mais voilà, merci beaucoup d'avoir accepté et de nous avoir accordé ce temps-là, en tout
Eh
cas.
ben, très volontiers, merci à toi.
Et à très bientôt.
À bientôt, Julien.
Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en autour de vous. Débriefez-le avec vos collègues en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.